petit peu comme tout le temps. Toujours la même, mais toujours un peu variée, qui évolue, qui bouge. Donc, là, on va avoir des petits exemples de choses qui se passent. Sinon, on aura un point sur l'actualité un peu française. Avec point sécurité routière, je sais pas si on en parlera.
Ah bah si, ça serait important quand même.
Ouais, on en parlera un petit peu alors.
Ah bah
sinon,
beaucoup.
Un article sur les quartiers de deux journalistes, Ville sous emprise, Saint-Ouen ou la loi du cannabis. Voilà, un truc intéressant. Un autre de la Croix où on apprend enfin une estimation sérieuse qui retombe à peu près sur les nôtres. Qui montrerait que le chiffre d'affaires de du cannabis en France serait de 1,1 milliard d'euros. On était dans les clous, hein, dans nos estimations, a priori. Sinon, on verra des communiqués de presse du cirque. Justement, un truc avec cannabis et prévention, on fera peut-être le lien à ce moment-là.
Enfin, ça parle de l'alcool aussi, enfin du dépistage au volant. C'est...
Oui, tout à fait.
Voilà.
Et l'autre sur l'impasse de sortir de l'impasse prohibitionniste, un appel peut-être aux candidats. Voilà, en tout cas, nos camarades s'amusent là-dessus. On fera un petit tour aussi du côté de l'international avec la Suisse, où ils essayent l'espèce fondue, où il y a des expériences décentralisées, quoi, des trucs assez intéressants. On verra aussi une herbe suisse qui est mise en vente avec que du CBD, donc pas de THC. Voilà, ils ont une législation un petit peu différente sur le taux de THC. Bon, on verra tout ça dans la deuxième partie de l'émission. Et puis, donc, on ira aussi voir France Inter, Jean-Michel Cosse, qui nous fait un bon petit truc. On ira faire un tour en Israël avec les pharmacies, avec pas mal de choses. On fera un grand temps, sans doute, sur les États-Unis, sur la Californie, sur les 5 nouveaux États qui vont présenter ça. C'est bientôt, c'est demain, hein, qui vote. Donc la dernière fois, depuis deux fois, il y en a quelques-uns qui votent. Donc il y a l'Alaska, le Colorado, l'Oregon et Washington qui ont déjà légalisé le cannabis.
Et le Colorado ?
Et le Colorado.
Oui, c'était le premier.
Oui, 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 l'Alaska, le Colorado, tout à fait. Je l'ai raté.
Oui, non, c'est pas grave. Bon, mais voilà. Il va y en avoir d'autres, effectivement.
Il y a aussi le district de Washington. Et donc, il y en a 5 autres qui vont être arrivés. Donc, la Californie, avec plein d'articles dessus. Ils ont déjà tenté le coup, ils n'ont pas réussi. Peut-être que cette fois, ça va passer. Le Nevada, l'Arizona, le Massachusetts et le Maine. Si je ne me trompe pas.
Ouais,
voilà, donc, on verra. On a 4-5 articles là-dessus, évidemment. Puisque, pour nous, c'est. Pour nous Français, c'est quelque chose d'étrange que le peuple s'exprime, et surtout que les lois changent et qu'on ne reste pas arc-bouté sur des vieux principes moralistes, prohibitionnistes. Voilà, et puis enfin, on finira peut-être par le Liban, à moins que le Liban, c'est pour vous rappeler que la plaie de la Beka est toujours aussi fertile.
La plaine de la Beka,
oui. Oui, la plaine de la Beka.
On a compris la plaie.
Aussi... Non, la plaine, la vallée, la plaine voilà. De la Beka est toujours aussi fertile.
Et qu'on y fait pousser beaucoup de cannabis.
Et qu'on y fait pousser
Merci.
Beaucoup de cannabis, on en parle régulièrement.
Là, ça faisait un petit moment qu'on peut parler du Liban et de la plaine de la Beka.
Dans des choses qui seraient presque de la légende, dans les années 70, on parlait du
Libanais rouge.
Du Libanais rouge, voilà, tout à fait. Ouais. Voilà, donc là, il parle d'un. C'est Julien Decuyer, hein, dans
RTBF.be,
un journal belge. Voilà, donc c'est un petit peu plus ouvert. Donc, qui allait rencontrer donc, quelqu'un qui cultive 130 hectares de champs dans la vallée de la Beka avec du cannabis, donc qui est un des plus gros producteurs. Voilà, et puis il explique que depuis les années 90, ça continue malgré 15 ans de guerre civile, malgré les efforts de l'armée pour tout éradiquer. Bref, voilà, ça continue. Et en tout cas, il y a quelques agriculteurs, si on peut les appeler comme ça, qui prospèrent grâce au cannabis au Liban.
Puis il y a toujours le même politicien qui défend une idée de légalisation. Voilà, on a déjà parlé il y a plusieurs années, mais toujours le même, Walid Jumblatt. Voilà, politicien libanais, leader du Parti progressiste socialiste. Qui est favorable à une légalisation du cannabis, et il est toujours en place et il réclame toujours une légalisation. Voilà. Voilà.
Et puis dans les expériences qui sont un petit peu désordonnées, il y a celle de Montluçon là que tu nous as mis en exergue d'un gynécologue.
Ah oui, bah oui, parce que beaucoup de personnes en France imaginent que c'est tout est verrouillé au niveau politique et que tous les partis, enfin toujours, on a toujours les mêmes partis, etc. Bon, alors là, voilà, on a quelqu'un. D'original pour le coup, quelqu'un qui s'exprime et qui milite et qui travaille en dehors des partis politiques classiques. Donc cet individu, il s'appelle Thierry Richard, il est gynécologue à Montluçon et il milite entre autres pour la légalisation du cannabis et la réouverture des maisons de tolérance. Voilà, alors il va donc se présenter sa candidature pour les législatives au printemps de l'année prochaine, en 2017. Apparemment, il avait déjà présenté sa candidature aux législatives en 2012 à Guingamp, en Bretagne, et il avait quand même rassemblé 0,5% des voix. Donc, effectivement, ce sont des petits partis avec des petits scores, on est bien d'accord. Mais c'est quand même assez dingue parce que ce sont quand même des questions certes polémiques, qui font polémique en tout cas, mais qui sont ô combien importantes en termes de santé publique. On n'arrête pas d'en parler, on parle toutes les semaines, tous les lundis. La question du travail sexuel, c'est aussi une question de santé publique, et en fait on s'aperçoit que finalement les partis politiques traditionnels, toutes ces questions ne les intéressent plus ou moins pas du tout, quoi. Voilà. Alors que ça devrait sans doute être une de leurs priorités, si on avait affaire à des politiciens honnêtes et concernés par ce qui se passe dans le pays, notamment de ce qui se passe sur la question de la santé publique. Bon, malheureusement, c'est pas trop leur truc. Donc voilà, ce sont des sujets qui sont importants, qui sont repris par des personnes qui, elles, considèrent que c'est aussi important et qui veulent travailler là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'il dit d'autre, monsieur Thierry Richard, parce qu'il ne s'intéresse pas qu'à ces questions-là. Alors, il propose également une hausse du SMIC de 500 euros, la suppression de l'armée, la dotation de 15 000 euros par CDI signé en cas de création d'entreprise. Voilà. Il travaille également avec une dame qui est sa suppléante, qui s'appelle madame Katia Lopez, 63 ans, retraitée de l'éducation nationale. Voilà. Alors bon, sinon les autres candidats, les autres partis, il n'en pense pas grand-chose, monsieur Thierry Richard. Il va pas faire de réunion formelle et il dit comme ça que des réunions, il dit j'en fais en permanence, je fais les bistrots, je suis là pour essayer de rendre cette société meilleure. Voilà. Et moi je trouvais que ça valait le coup de lui tirer un peu un coup de chapeau ce soir, ce Thierry Richard et madame Katia Lopez. Parce que c'est très courageux quand même ce qu'ils font. Ils s'attaquent à des sujets loin d'être simples. Et ce qui est quand même assez dramatique, c'est que ces sujets-là, globalement, soient délaissés par les candidats représentant les partis soi-disant les plus légitimes. Voilà. Allez, un peu de musique. À tout de suite.
Feel like a fighting rooster. Feel know better than I ever felt.
Retour, on vient de s'écouter donc Nina Van Horn.
Yes, Dubhead Blues.
Voilà, comme il se trouve qu'il y a des élections aux États-Unis très prochainement, donc demain en l'occurrence, voilà, on a décidé de faire une petite soirée blues américain et comme on discutait pendant la pause, là on vous promet que pendant les primaires de la droite, on passera du Michel Sardou et du Johnny Hallyday.
Non.
T'es pas d'accord ? Putain, cette discrimination. Et pour la primaire du PS, on passera quoi alors ? Bon, je l'ai fâché. j'ai fâché mon collègue. Bref, voilà, vous êtes toujours dans l'émission Cannabis Circus sur Radio Canu 102.2 MHz, la plus rebelle des radios. Cannabis Circus, l'émission qui est animée tous les lundis soirs de 21h à 22h par le CIRC, le collectif d'information et de recherche sur le cannabis, section lyonnaise. Cirque Lyon, que vous pouvez contacter par téléphone au 06 11 53 10 07. Vous pouvez nous écrire un petit mail cirque-lyon@no-log.org. Vous pouvez visiter notre site internet www.cirque-lyon.fr. Et vous pouvez même nous écrire un petit courrier que vous pouvez envoyer par la poste, ça marche toujours. Cirque Lyon, boîte postale BP 93 043 69 605 Villeurbanne, CEDEX. Voilà, continuons notre revue de presse du lundi. Donc, alors, on parle un peu de sécurité routière. Un petit peu, si ça ne te dérange pas.
Non, allons-y.
Donc, alors, ça, c'est un sujet sur lequel nous revenons assez régulièrement, puisque en 2005, je crois que c'était Michel Alliot-Marie à l'époque qui était ministre de l'Intérieur. Et donc en 2005, Madame Alliot-Marie avait décidé d'expérimenter massivement les tests salivaires pour coincer les fumeurs de chichons qui auraient eu l'idée de prendre leur véhicule, une automobile, un scooter, une moto, hein, peu importe. Et tout au long de ces années, voilà, ils ont expérimenté ces tests salivaires. La loi prévoyait quand même que, en cas d'un test salivaire positif, il y a une confirmation par un test sanguin. Puis l'année dernière, je crois que c'est au début de cette année même, la loi a un peu changé et maintenant il n'y a plus besoin d'un test sanguin de confirmation du test salivaire, mais un deuxième test salivaire peut suffire en tout cas pour vous faire avoir des soucis et vous évitez en l'occurrence d'aller à l'hôpital faire un test sanguin. Donc voilà, on a déjà parlé un peu il y a 15 jours, c'était très intéressant. D'ailleurs, on expliquait que si jamais vous avez ce genre de problème, il faut tout de suite demander une contre-expertise au moment même où vous êtes en train quasiment de vous faire dépister au bord de la route, quoi. Voilà. Donc bon, en tout cas, aujourd'hui, l'article dont on parle, il y a plusieurs articles dans la presse ces 10 derniers jours. Là, c'est un article de 20 minutes où on nous dit qu'il va y avoir une généralisation des tests salivaires pour dépister la drogue au volant. Alors, comme je vous disais, il y en a déjà pas mal, les tests salivaires, mais c'était quand même cantonné à quelques départements de tests. Bon, et il se trouve quand même qu'il y avait beaucoup plus de tests d'alcoolémie qui étaient passés au bord des routes que de tests salivaires visant à dépister l'usage de substances illicites. Mais les choses sont en train de changer. Et les tests qui avaient déjà été expérimentés dans 11 départements seront bientôt disponibles d'ici la fin de l'année, au plus tard début 2017, nous dit-on. Un peu partout en France finalement. Et ces tests devraient permettre de détecter du cannabis, de la cocaïne et leurs dérivés comme le crack, les amphétamines et les opiacés. Mais manque comme substance détectée les médicaments. Ah là, par contre, alors là, il n'y a rien. Donc vous pouvez légalement conduire, shooter au médoc. C'est même pas prévu de les dépister. Alors c'est une vieille histoire qui remonte au début des années 2000, à la fin des années 90 même. Ça avait commencé déjà quand ils avaient voulu faire l'étude stupéfiant accident mortel de la circulation routière, où ils prévoyaient de dépister, de détecter dans les accidents la consommation de médicaments. Puis petit à petit, puis en plus les législatures évoluant, en passant de Jospin à Chirac-Sarkozy, on a enlevé tout ça, et puis du coup, c'est même plus pris en compte. Voilà, alors pourquoi...
Malheureusement, ça aurait été...
Malheureusement, voilà, malheureusement. D'ailleurs, dans l'un des communiqués de presse du Cirque, là, dernièrement, d'aujourd'hui, on met le doigt là-dessus. Il y a une tolérance, voire une acceptation, en France, en tout cas, du fait qu'on puisse rouler, shooter au Médoc. Voilà. Par contre, si vous prenez du cannabis, aïe, aïe, aïe. Alors, on nous dit dans cet article qu'il y aurait eu 58 247 délits pour usage de stupéfiants l'année dernière, en 2015. Voilà. Alors, les campagnes, il y a une nouvelle campagne qui circule aujourd'hui à la radio, à la télé. Alors ça, c'est tout récent, ça date il y a 2-3 jours, là, ou d'une semaine. On nous dit quand même que voilà, cette nouvelle campagne à base de spots de radio, de films d'animation, et même de dépliants et de BD sera axée sur le cannabis, parce que c'est de loin la drogue la plus consommée, et que les nouveaux kits salivaires est là pour faire passer un message clair, en fait, sensibiliser donc les usagers au danger de la consommation avec la conduite, et de passer donc un message clair, les choses vont changer parce qu'on pourra contrôler plus facilement. Voilà ce que déclare Emmanuel Barbe. D'où qui sort celui-là ? J'ai perdu son origine. Bref, peu importe. Donc voilà, donc comme je disais, 58 247 délits pour usage de stupéfiants ont été constatés en 2015, sur 118 476 dépistages réalisés. Voilà. Alors, l'intérêt du deuxième test salivaire, on va pas revenir dessus pendant des heures, mais que, voilà, pas besoin d'emmener le contrevenant à l'hôpital pour une prise de sang. Le deuxième test salivaire va ensuite être envoyé en labo pour analyse et, d'après ce qu'on lit, je cite M. Emmanuel Barbe, dans 99% des cas, le premier test est confirmé en laboratoire. Donc, encore une fois, je reviens un peu sur ce qu'on disait il y a 15 jours.
Emmanuel Barbe, c'est le délégué interministériel à la sécurité routière.
Merci, merci. Donc voilà, je redis ce qu'on avait dit il y a 15 jours, c'est que quand il y a dépistage et que vous souhaitez des contre-expertises, si vous voulez faire valoir quelque chose, c'est à ce moment-là qu'il faut le faire, au moment où vous êtes dépisté au bord de la route. Voilà. Et là, après, on arrive à cette espèce de mensonge qui circule comme ça depuis moins 10 ans maintenant, c'est que et qui n'est pas du tout précisé, pas nuancé, c'est que l'usage de stupéfiants, et quand on dit ça, on parle à 99% du cannabis, donc serait à l'origine de 23% des tués sur les routes en 2015. Sauf que quand on lit dans l'article un peu plus loin, on s'aperçoit que sur les 23%, ben, y avait la moitié des conducteurs qui étaient aussi positifs à l'alcoolémie autorisée. Voilà. Combinaison qui, nous dit-on, multiplie par 23 le risque d'accident. Alors là, je ne sais pas où ils ont trouvé ça. Je ne sais pas comment ils font cette multiplication. Scientifiquement, de la manière la plus rigoureuse effectuée par des scientifiques sérieux, le mélange, par exemple, cannabis-alcool, multiplie le risque par 15. Et pas par 23. Alors, on ne sait pas de quoi ils parlent, on ne sait même pas de quel produit ils parlent. Voilà, peut-être que tu as une idée là-dessus, je ne sais pas.
Aucune,
bon. Alors, on nous redit un peu toujours les mêmes choses, que ce problème touche particulièrement les jeunes et les, chez les 18-24 ans, ben, y aurait 23% des conducteurs, justement, contrôlés dans des accidents mortels, qui étaient positifs à au moins un stupéfiant, 13% en moyenne sur l'ensemble de la population. Et dans 94% des cas, on nous précise qu'il s'agissait d'hommes. Voilà. Donc, tout ça pour dire que, de leur point de vue, il y a plein d'accidents provoqués par l'usage de cannabis, parce que c'est quand même ça que ça veut dire, et que les jeunes sont ceux qui en consomment et qui ont les accidents. Donc, voilà. Si vous êtes jeune, si vous fumez du cannabis et que vous conduisez une moto, un scooter, une voiture, faites attention. Parce que, avec cette généralisation des tests de dépistage salivaire, à mon avis, ça ne va pas s'arranger, et je pense qu'ils vont contrôler de plus en plus de gens. Ce qu'on rappelle aussi, et qui est scandaleux, et qui n'est absolument pas précisé dans ces articles, c'est que malheureusement pour le cannabis, on peut être contrôlé positif alors qu'on ne conduit pas sous l'influence du produit. Ah, vous allez me dire, mais comment c'est possible ? Eh bien, c'est possible parce que le cannabis se dégrade lentement dans l'organisme, qui dépend aussi de votre constitution, votre masse graisseuse. Ce qui se passe, c'est que en se dégradant, le THC produit ce qu'on appelle une espèce de source de dégradation. Je ne me rappelle plus du terme exact, mais du coup, ça produit du THC-COOH. Et le THC-COOH montre bien une ancienne trace de consommation, mais ça montre aussi que vous n'êtes pas sous l'emprise du produit quand vous faites votre test salivaire. Sauf que comme le cannabis est illégal et qu'il n'y a pas de seuil légal, forcément, eh bien même une trace ancienne suffit à vous incriminer et à vous faire condamner. Voilà. Et c'est ça la grosse injustice. Puisqu'on ne peut pas être dans ce cas de figure avec l'alcool. Voilà. Avec l'alcool, quand votre niveau d'alcoolémie est tombé bas, plus bas que le seuil légal, vous n'avez pas dans votre corps une espèce de trace d'une consommation ancienne d'alcool. Et puis bon, de toute façon, c'est légal, l'alcool, donc si vous voulez, voilà, il n'y a pas ce problème-là. Voilà. Est-ce qu'on ne se taperait pas le communiqué de presse du coup, cannabis et prévention, responsabilisation, contre-culpabilisation ? Ça ne te dérange pas, je vais le lire.
Vas-y.
Alors, de toute évidence, là, avec un LA majuscule, jeunesse et la sécurité routière sont les dernières marottes utilisées par les partisans de la prohibition du cannabis pour légitimer un dogme par ailleurs fortement remis en cause jusque dans l'opinion publique. À la première, outrageusement utilisée comme bouclier humain, assouplir la loi reviendrait à lui donner un mauvais signal. Mais que dire de celui consistant à la criminaliser pour sa pratique intégrée du cannabis? Peut-on vraiment considérer cela comme plus adapté? Appuyé par une profession, celle des addictologues, répétant son inquiétude de voir des ados en pleine formation cérébrale fumer des joints, il semble cependant oublier que la loi la plus répressive d'Europe n'a jusqu'ici fait que provoquer l'explosion de la consommation dans cette population. La seconde, agitée tel un chiffon rouge, est tout aussi instrumentalisée à coups d'interprétations fallacieuses de statistiques et en dépit d'études menées à l'étranger, discrètement occultées pour les besoins de leur cause. Car il est une évidence, la question de l'usage du cannabis et de la sécurité routière ne peut être considérée à l'aune de l'émotion suscitée par quelques faits divers que ce soit. L'argument consistant à mettre en relation des accidents de la circulation et la consommation de cannabis révèle en effet d'une interprétation douteuse des chiffres recueillis. D'une part parce que les tests pratiqués, s'ils révèlent bien la présence de THC dans l'organisme, ne certifient pas que les personnes incriminées sont sous son emprise. D'autre part, parce que ces mêmes tests sont menés sur les victimes des accidents, ce qui fausse tout. En tout état de cause, les mesures prises par les autorités relèvent d'une application très arbitraire du code de la route. S'il y a bien des règles à observer, elles devraient d'abord consister à évaluer précisément la capacité des cannabinophiles automobilistes à conduire leur véhicule, qu'il s'agisse d'individus débutants ou aguerris dans la conduite comme dans l'usage de cette drogue. Ils seraient tout aussi avisés de ne plus considérer l'ivresse cannabique comme celle de l'alcool également. Si cette dernière encourage les conducteurs à la prise de risque, la première les rend au contraire plus prudents, comme le confirment les études publiées sur ce sujet à l'étranger, et notamment, je précise, au Canada. Mais pas que, en Hollande également, il y a eu des études assez sérieuses qui ont été faites sur le sujet. De ce fait, nous pourrions alors aussi nous demander dans quelle mesure le cannabis serait à l'origine de nombreux accidents évités. Nous avons tous parmi nos relations des proches portés sur une pratique plutôt sportive de la conduite, mais définitivement plus prudents après avoir fumé un joint. Cela fait sans doute partie des vérités difficiles à entendre, mais qui d'autre que des cannabinophiles sont en mesure d'en parler ? Notre expérience fait pourtant office d'expertise, bien plus que la parole de celles et ceux qui s'expriment médiatiquement en tenant des propos toujours plus anxiogènes sur le cannabis. La nouvelle campagne de la sécurité routière ne déroge pas à cette règle. Mettant en scène des jeunes, elle opte pour la culpabilisation plutôt que pour la responsabilisation, ce qui est de toute évidence contre-productif. Bien qu'elle rappelle le droit en détaillant les conséquences d'un flagrant délit d'usage au volant, elle oublie soigneusement d'expliquer celle du retrait de permis qui entraîne souvent perte d'emploi, discorde familiale, stigmatisation sociale, etc. Elle oublie aussi que la répression s'applique à toutes et à tous les usagers récréatifs ou thérapeutiques. Et l'on sait que le nombre de ceux-ci augmentera lorsque les vertus médicales du cannabis seront enfin reconnues et sa prescription pharmaceutique répandue. Ne faudra-t-il pas alors envisager une tolérance, comme cela se pratique avec les automobilistes usant de médicaments psychotropes ? Pour toutes ces raisons, le CIRC insiste sur la nécessité d'entamer sans plus tarder la réalisation d'études dans ce domaine. Là, je suis étonné qu'on dise un peu ça, parce qu'il y a quand même plein d'études déjà. Bref. Ces adhérents et adhérentes, cannabinophiles et automobilistes confirmés ou non, pourraient être mis à contribution, la plupart d'entre eux se sentant jusqu'ici exclus de mesures les touchant pourtant directement dans leur vie de tous les jours. Si cette décision devait être prise, on sait où nous trouver. Voilà, voilà. Pour ce qui est de la conduite et du cannabis.
Voilà, donc pour continuer très rapidement.
On enchaîne, allez.
Avec un livre qui va sortir, qui est écrit par deux journalistes. Claire Guédon, qui est journaliste parisien, et donc qui a déjà pas mal bossé sur la banlieue parisienne. Et Nathalie Perrier, une journaliste parisien aussi, qui elle a travaillé sur l'accouchement sous X, ou faut-il le supprimer par exemple. Voilà. Un autre article qu'elle avait fait pour voir. Donc là, ça fait depuis quelques temps qu'ils travaillent sur du long cours à Saint-Ouen, où ils ont fait une chronique sociale pour alimenter le débat de la légalisation. Donc une enquête assez édifiante sur le trafic de cannabis à Saint-Ouen, la détresse des riverains soumis à la lâcheté et l'hypocrisie des politiques, autant qu'à l'impuissance d'un système de ceux qui persistent à maintenir. Que ceci persiste à maintenir. Ouh. Nous les avions effectivement rencontrés donc en juin 2016. Donc ils ont rencontré aussi
à Saint-Ouen.
Dans une association qui avait été faite dans une réunion qui avait été faite par l'association.
Par une association de sous-marins du PS local.
Voilà. À cette époque, ils avaient d'ailleurs filmé, ils avaient rencontré ces journalistes. Bref.
Comme quoi, il y a des gens au PS qui sont prêts à être courageux localement.
En trois mots, parce que la présentation a l'air d'être pas mal, hein. À deux pas du célèbre marché aux puces, le trafic de cannabis est partout. Pas un quartier de cette ville limitrophe de Paris n'y échappe. Cette situation est unique en France par son emprise sur la population. Ce business tentaculaire qui génère régulièrement des épisodes de violence a déjà fait plusieurs morts. Les gouvernements, de droite comme de gauche, ont fait de Saint-Ouen un exemple de la lutte contre le trafic. Comme à Marseille, le combat est sans répit. Présence massive de policiers, enquête judiciaire, traque des fumeurs de joints et des guetteurs, murs anti-drogue et vidéosurveillance. Tout est mis en œuvre pour éradiquer les réseaux. sans réel succès. Une question se pose donc, ne faut-il pas ouvrir un débat sur la légalisation ou la dépénalisation du cannabis ? Tout ça pour ça. Bon, autre article, ça vient de la Croix, c'est assez rare, mais qui dit la drogue génère 2,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en Europe. Donc c'est un rapport qui vient de sortir le 2 novembre, et donc qui a été fait par, donc c'est une étude de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, autrement dit l'INHESJ. Bref, en tout cas, c'est une étude assez sérieuse hein, qui vient d'être rendue publique à l'occasion d'un colloque sur l'argent de la drogue.
Toi, tu dis que c'est une étude sérieuse, toi.
Bah, c'est une étude sérieuse, c'est une étude que comme on l'a fait, donc tout aussi sérieuse.
Ouais.
Ils sont partis des chiffres que tout le monde a, hein, du nombre de consommateurs présumés, d'après toutes les études qui sont faites.
Ouais.
Après du prix présumé, etc., etc. Il n'y a pas beaucoup d'autres manières, toutes manières pour calculer. Hein. Moi, les calculs, je les ai faits de différentes manières. J'arrivais à peu près dans ces eaux-là. Hein.
Et donc, est-ce qu'il y a vraiment besoin de mobiliser tout un tas de, enfin, j'allais dire de chercheurs, non, parce que l'INS, enfin, c'est une longue histoire. Bref.
Bon, en tout cas, l'intérêt, c'est qu'ils sortent des chiffres.
Oui, mais bon.
Pour moi, oui. Voilà, le cannabis représenterait à peu près la moitié de ce total. Ouais, c'est à peu près ce qu'on a déjà vu au niveau mondial. 38% pour le cannabis, pour la cocaïne. Je crois qu'il y a les autres chiffres pour les autres qui sont plus bas, je ne sais plus où on les retrouve. Voilà, bon bref, en tout cas, après il y a l'héroïne, puis après il y a les produits de synthèse, ecstasy et autres. Dans l'ordre de force. Qu'est-ce qu'on retrouve d'intéressant aussi dans cet article
J'avais pas vu, il y a quand même Ben Nagdar qui a participé.
Voilà, mais voilà, je sais, il est là. Le trafic d'héroïne, lui, est estimé à 267 millions. Donc voilà, on commence à être beaucoup plus petit. Et 55 millions pour les drogues de synthèse. Voilà, après, ils ont travaillé sur la croissance. A priori, le cannabis continuera à croître un petit peu. Et par contre, la cocaïne, elle a doublé ces dernières années. Voilà, mais en tout cas, ce que j'aime bien quand même, ils sont prudents. Hein. Il s'agit de chiffres minima qui restent à manier avec précaution, précisent les chercheurs.
Tout à fait.
Voilà, donc ils estiment le profit laissé aux trafiquants par leurs activités criminelles. Donc ils ont essayé de voir combien gagnait chacun. Ils ont vu que c'était pas très redistributif. Ils ont épluché un carnet de comptes qui a été saisi, je sais pas où. Où ils arrivaient à voir. Parce que le caïd du coin payait à ses hommes et quel bénéfice il faisait, etc. etc. Ouais, c'était assez intéressant, mais bon, on avait retrouvé la même chose sur des articles il y a une dizaine d'années qui comparaient le cannabis et la vente des drogues au McDonald's et avec leur structure très pyramidale.
Bien hiérarchisé.
Ouais, très hiérarchisé. Et là aussi, avec des profits plus importants pour le haut de la pyramide. Voilà, donc le guetteur, il gagne 800 euros. Le salaire mensuel d'un responsable de point de vente, 7500 euros. Et au sommet de la pyramide, qui rassemblerait 240 000 personnes. Donc ça, ça doit être la totalité de la pyramide qui fait 240 000 personnes. Le milieu de tête de réseau pourra engranger chacune 380 000 euros de gains mensuels.
Annuel.
Annuel, oui, pardon.
Alors, apparemment, ce taux de rentabilité dont on nous dit qu'il serait de 38%, donc pour le cannabis, hein, si je comprends bien, il serait encore plus élevé pour la cocaïne, en fait. Ce qui n'est pas non plus très surprenant.
Voilà, aussi, la dernière chose qui sort, c'est que la prison n'est pas dissuasive. Ce qui est le mieux, ça serait de les toucher au portefeuille. Alors pour l'instant, il y a quelques saisies hein, sur des immeubles ou sur des biens, sur des saisies en argent. Ça atteindrait 60 millions d'euros. Donc quand on les compare aux 2,3 milliards, on n'est même pas à 1% du total.
J'ai trouvé que c'était l'élément le plus important, le plus intéressant de cet article et peut-être de la recherche, c'est effectivement de mettre en parallèle justement ce qui est saisi pour, enfin, ce qui est saisi par les forces de police dans le cadre de la lutte contre la drogue et compagnie, avec ce que ça rapporte. Voilà. Et qu'effectivement, comme tu dis, on voit bien que il n'y a pas photo. Voilà, 60 millions récupérés par les forces de police et tout ça, contre 2,3 milliards de chiffre d'affaires. Bon. Et bon, voilà, en plus, il se trouve que quand même, les forces de police récupèrent essentiellement de l'argent liquide, des voitures et des immeubles. Ce qui est quand même déjà pas mal. Mais ce qui est effectivement loin des 2,3 milliards de chiffre d'affaires. Voilà. Eh bien, moi, je vais vous lire le deuxième communiqué de presse du CIRC, sortir de l'impasse prohibitionniste, si ça ne te dérange pas.
Je t'en prie, vas-y.
Et après, on écoutera un peu de musique. Je vois que t'as déjà lancé le... Ah, j'entendais, je vois pas, j'ai entendu. Bref, donc, communiqué de presse donc, du CIRC du 30 octobre dernier. Au terrible règlement de compte sanglant sur fond de trafic de drogue qui se multiplie à Paris, à Marseille, en passant par Grenoble et ailleurs, moi je dirais même, viennent désormais s'ajouter les opérations d'intimidation des forces de l'ordre menées par les mêmes réseaux criminels pour protéger leurs petites affaires. À la détresse des riverains succède à présent celle de la police, dont une poignée de ses agents n'hésite plus à manifester cagoulés et armés pour réclamer toujours plus de moyens que les autorités politiques ne manqueront sans doute pas de leur accorder. Ce n'est cependant pas dans un perpétuel et inefficace renforcement des lois que se trouvent les solutions, comme tente à le démontrer la situation actuelle. Face à l'explosion de la consommation et des trafics, une corruption de plus en plus manifeste de certaines institutions censées lutter contre ces phénomènes, et surtout l'impuissance des douanes, de la police et de la gendarmerie, c'est une remise, complète remise en cause du dogme prohibitionniste qu'il faut s'attacher. C'est à une complète remise en cause du dogme prohibitionniste qu'il faut s'attacher, pardon. La plupart des pays européens y songent désormais, à l'instar de ce qui se produit outre-Atlantique. L'évidence de l'échec du tout répressif doit nous obliger à envisager de nouvelles solutions, et notamment l'abandon progressif de la prohibition en des modalités différentes selon les substances, en commençant sans doute par le chanvre cannabis, dont les conséquences sanitaires et sociales ne justifient en rien la stigmatisation dont il est victime. La régulation de ces filières récréatives et thérapeutiques pourrait au contraire bénéficier à toute la société. D'une part, en accordant enfin des droits à ses usagers et en libérant de nombreuses places de prison occupées par des individus n'ayant rien à y faire. D'autre part, en régularisant les activités d'une filière dynamique pourvoyeuse de plusieurs milliers d'emplois et capable d'offrir de nouvelles sources de revenus à nos campagnes sinistrées ainsi qu'à l'État. Des propositions que désormais plus de la moitié de nos compatriotes semblent prêtes à envisager selon un récent sondage de l'Ipsos, et que tout bon responsable politique en phase avec la société se devrait de prendre en compte à l'approche des élections. À bon entendeur.
Voilà, et moi je vais juste vous parler, parce que ça finira toute l'actualité française, d'un petit article sur France Info.
D'ivoire.
De Jean-Michel Coste, qui a longtemps dirigé l'Observatoire français des drogues et de la toxicomanie, qui était très intéressant, avec un atlas et tout. Bon, c'était
sur France TV.info. Sur France TV.
Voilà, il dit la légalisation du cannabis endiguerait-elle la violence dans certains quartiers sensibles? En tout cas, c'est la question qu'il pose. Donc pour l'œil, oui, si c'était légalisé, cela éviterait des affaires comme on l'a connu à Viril Châtillon. Voilà, et il dit la majorité des Françaises sont pour légaliser. Une des raisons pour légaliser le cannabis, c'est de lutter contre les réseaux criminels. Bon, on peut noter que le pourcentage des Français a évolué, donc ça c'est bien, c'est intéressant. Mais en tout cas, l'opinion publique évolue, hein, heureusement, en 20 ans qu'il évolue, cette opinion publique. Ça fait 40 ans que la prohibition existe et que la guerre contre la drogue a été un échec, rappelle-t-il. Et la deuxième chose, c'est qu'une grande partie des Français ont déjà fait l'expérience du cannabis et le regard n'est pas le même, conclut le spécialiste. C'est aussi pour ça que ça évolue. peut-être doucement avec l'arrivée des générations qui ont elles aussi fumé et qui ont dans leurs amis toujours un ou deux qui fument dans une centaine ou dans une cinquantaine. C'est à peu près le chiffre, 4-5% de la population, quelle que soit sa classe sociale, son âge, etc., consomme du cannabis, quelques pourcents.
Allez, musique ?
Ouais, musique,
allez, tout de suite.
Fait.
Encore un peu de jazz, de blues américain, tout de suite.
Man, what's the matter with that cat there?
Must be full of reefer.
Full of reefer?
Yeah, man.
Mean that cat's high?
Sailing.
Sailing?
Lightly.
Get away from here. Man, is that the reefer, man?
That's the reefer, man.
I believe he's losing his mind.
I think he's lost his mind.
Reefer man.
Reefer man,
have you ever met that funny reefer man?
Reefer man,
if he says he swam to China, he'll sell you South Carolina, then you know you're talking to that reefer man.
Reefer man,
have you ever met funny reefer man?
Reefer man,
have you ever met funny reefer man?
Reefer man,
if he says he walks the ocean, anytime he takes a notion, then you know you're talking to reefer man. Talking to that reefer man.
Reefer man.
Have you ever met fun reefer man?
Reefer man.
Have you ever met a funny reefer man?
Reefer man.
If he takes such mania, wants to give you Pennsylvania, then you know you're talking to the reefer man. Won't sell the Atlantic, then you know you're talking to that reefer man.
Voilà, on vient de s'écouter Cab Calloway avec un morceau célébrissime, culte, qui est très peu connu finalement, je pense, mais qui s'appelle The Reefer Man. Et voilà, pour votre information, reefer en anglais, c'est, ça veut dire joint, pétard en fait.
Ouais. Et, quand c'est le rouleur de pétard, quoi, en gros.
Bah, ouais, ou le fumeur de. Ou le, ouais, ou le vendeur de. Oui, exactement, le vendeur de joint et tout. Et voilà, si vous comprenez un peu l'anglais, je vous invite à réécouter la chanson et à vous intéresser vraiment à ce que dit Cab Calloway, puisque aujourd'hui, en 2016, je pense que en France, même aux États-Unis, je pense qu'il serait impossible de pouvoir vendre un morceau avec de telles paroles, quoi. Voilà, donc c'est une chanson qui est d'une époque pré-prohibition, donc des années 30. Et qui est assez intéressante quand même, qui démontre un peu l'ambiance actuelle de l'époque et de voilà, c'est tout. Bon, allez, la suite.
Ouais, donc dans l'ambiance actuelle, donc c'est la Dauphine et Haute, en Haute-Savoie, qui parle de la Suisse comme laboratoire de la régulation du cannabis. Donc vous savez, les Suisses, ils avaient fait des votations, ils étaient plutôt contre. Ah bah alors là, mais bon, il y a quand même des gens qui continuent à booster derrière et qui partent toujours du même constat, que la répression ne marche pas. Et bien certaines grandes villes de Suisse se sont engagées dans une légalisation partielle du cannabis. Les projets pilotes pourraient démarrer d'ici quelques semaines, mais Genève ne deviendrait pas Amsterdam.
Non, c'est pas l'objectif. Puis toutes les villes ont un peu un intérêt différent pour les applications.
Voilà, tout à fait. Alors, répéter ça, c'est... On parle de la spèce fondue avec le président de la Confédération Suisse, qui a son superbe dicton « Rire, c'est bon pour la santé ».
Ouais, je sais pas si c'est sérieux cette vidéo dont il parle dans l'article.
Ben, en tout cas, elle est dans le quotidien, je crois.
Ouais, donc, je suis étonné. Voilà. Bon, bref, en tout cas, c'est vraiment pas, à mon avis, le plus important dans cet article, mais c'est un peu surprenant.
Le truc qui était un peu rire, en tout cas, qui m'a fait un petit peu sourire, moi.
Oui, oui, mais carrément.
Parce que j'ai déjà entendu ce président suisse dire rire, c'est bon pour la santé.
Oui, certes.
Je suis pas sûr qu'il en parlait pour l'espèce fondue, mais
non.
Voilà. En tout cas, bon, est-ce que ça se fera ? Ça, c'est pas sûr. En tout cas, il y a plein de grandes villes donc, qui travaillent là-dessus. Hein. Genève, Bâle, Berne, Zurich, voilà, travaillent dessus. Pas toujours pour les mêmes raisons, hein, si je me trompe pas. Bâle est intéressé voilà, par le côté médical, Zurich par la consommation non problématique, Berne par le côté récréatif des choses. Voilà. Mais en tout cas, chacune avance... Et donc, c'est Sando Catassin, un professeur de sociologie à l'Université de Genève et membre de cette commission consultative en matière d'addiction, qui nous parle de ça. Voilà, il dit que ben, c'est vrai qu'il y a eu des votations sur la légalisation, mais celle-ci était présentée uniquement par les fumeurs eux-mêmes, et donc ben, elles étaient trop excessives, elles ont été refusées. Et donc là, la méthode, ben, c'est d'y aller plus doucement et d'avancer sur la légalisation, mais de façon plus moins violente et moins volontaire, sans doute. Voilà. Et l'article... Fini pour dire qu'il y a quand même des cultivateurs suisses qui ont fait des demandes pour cultiver de l'herbe. Et alors, des paysans ont été recalés, faute de suffisamment d'expérience en la matière. Et l'article conclut, on imagine le drame en cas d'erreur d'aiguillage des productions, de l'herbe dans les fourrages, et voilà les vaches qui prendraient les trains CFF, au lieu de les regarder passer, c'est toute la filière du gruyère qui serait décimée. Ah, il faut bien que les journalistes s'amusent.
Disent n'importe quoi, surtout. Mais alors qu'en plus, en Suisse, il y a plein de paysans hyper compétents pour en faire pousser.
Tout à fait, dont certains qui sont sortis de prison, ça y est.
Rapace, je crois qu'il a fini par sortir de prison.
Je crois qu'il a fini, il faudrait qu'on vérifie. Mais
bon, il n'y avait pas que lui, il y avait Wurtz aussi, qui malheureusement nous a quittés,
oui.
Il y a 2 ans, je crois. Mais voilà, enfin, des cultivateurs de bon cannabis qui savent faire, il y en a en Suisse, il y en a depuis longtemps déjà.
Tout à fait. Sinon, toujours pour rester en Suisse, justement... ils ont sorti quoi, c'est le Biocan qui a sorti une herbe Fedora qui est à haute teneur en CBD, soit 7,2%, et quasi nulle en THC, soit 0,04%. Il pourrait même passer en France.
Non, en France c'est 0,02, je crois.
D'accord, elle pourrait presque passer en France.
Non,
elle devrait passer dans le reste de l'Europe.
Ouais,
et
monde,
en tout
même.
Cas, ils vendent cette herbe comme substitut au tabac. Voilà, donc ça peut être sympathique comme.
Enfin, en tout cas, c'est un projet. Moi, j'ai plutôt compris que c'était un projet qui. Ça allait peut-être se faire prochainement, mais j'ai pas l'impression que ce soit encore acté, quoi.
Ah, si, moi j'ai.
Ah, d'accord.
J'ai compris que c'était fait. C'est vendu, cette marijuana est actuellement vendue en Suisse à hauteur de 25 francs suisses, 23 euros pour 10 grammes.
Ah oui, excuse-moi, oui. Je suis désolé.
Voilà, bon, En tout cas, c'est le droit suisse, s'il le trouve, a priori, il le confisque, il l'analyse, et si les résultats sont bons, et ben, ils vous rendent l'herbe. Si les résultats sont mauvais, vous payez l'amende et en plus le prix de l'expertise. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur cet article, donc des choses un petit peu nouvelles. Sur Israël, dans tout cas, la grande chaîne de pharmacie israélienne travaille aux côtés du gouvernement pour mettre en œuvre une réforme qui permettrait d'améliorer la disponibilité de la marijuana à des fins thérapeutiques. Donc, on vous a beaucoup parlé d'Israël déjà, où ils sont un peu en avance, et où ils y travaillent depuis les années 90, c'est eux qui ont fait les premières herbes à 100% CBD. Voilà, donc ça serait Superpharm qui ferait donc bon, des relations pour avoir plus facilement de l'herbe dans les pharmacies. Et l'article rappelle qu'environ 27 000 Israéliens utilisent la marijuana à des fins thérapeutiques. Donc c'est quand même pas mal. L'autre article après, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Hein. On va plus avoir beaucoup de temps pour en parler. On a un article sur la légalisation de la marijuana à usage récréatif.
N'a pas créé une crise de santé publique au Colorado. Ça, c'est intéressant.
Voilà.
Un article qui nous vient de Radio-Canada. Et le docteur Larry Volk qui s'exprime dans cet article, ainsi que le pédiatre monsieur Sam Wong. Voilà, en tout cas pour l'instant, on va se dépêcher, il nous reste 4 minutes. En tout cas au Colorado pour le moment, les premières données seraient encourageantes d'après ce qu'on peut lire, et qu'il se serait pas rendu compte qu'il y a eu une forte augmentation de la consommation chez les jeunes. On en a déjà parlé il y a quelques semaines. Et là, alors ça c'est un peu différent avec ce qu'on avait dit il y a à peu près un mois. Dans l'article, justement, il disait qu'il y avait, par contre, il avait constaté une augmentation de la consommation chez les adultes, mais là, apparemment, il considérerait que non, qu'il n'y a pas finalement d'augmentation de la consommation chez les adultes. En tout cas, pas au Colorado. Alors, en fait, pour faire rapide, hein, ce qu'il y a comme souci, en fait, dans le Colorado, en termes de santé publique, c'est visiblement des parents qui achètent des sucreries ou des gâteaux à base de cannabis, qui les laissent traîner un peu n'importe où, et puis que leurs enfants, voire parfois même leurs très jeunes enfants, tombent sur les friandises et les consomment. Et que là, en général, ça inquiète déjà les parents et puis même les soignants. Le docteur Wong dit qu'ils ont vu quand même des enfants très malades, certains qui se réveillaient pas ou avaient de la difficulté à respirer. Donc effectivement, c'est un problème, et que du coup, le docteur Larry Volk, lui, recommande au Canada de pas commercialiser des produits comestibles comme les biscuits ou les bonbons. Cette recommandation a également été faite aux autorités de l'État du Colorado, qu'apparemment l'État aurait décidé de bannir des officines qui vendent tout ça, de bannir donc les bonbons en gélatine qui auraient des formes attrayantes pour les enfants. Voilà, parce que bonbons, brownie ou quoi que ce soit, biscuits, à partir du moment où c'est comme ça, sous cette forme, ça attire les enfants, et donc c'est un risque qu'ils les consomment. À part ça, visiblement, pas grand chose.
Voilà,
ce qui n'est pas surprenant pour nous d'ailleurs. Hein, mais...
Autre article, donc là il y en a plusieurs un petit peu dans le même style. La Californie en route vers la légalisation des cannabis, dans le Figaro. Dans Courrier International aussi, un tournant pour la légalisation de la marijuana. Voilà, donc il rappelle qu'il y a 4 ou 5 États qui vont légaliser. La majorité des Américains sont pour la légalisation du cannabis.
Le Canada est déjà légalisé.
Voilà, donc les 5 États, hein, pour si vous voulez regarder des trucs précisément après-demain au résultat, Californie, Massachusetts, Maine, Arizona et Nevada.
Seraient donc les États où, voilà, il serait question de petits référendums locaux sur le cannabis. Il y a plein d'autres sujets.
Par exemple, pour donner des exemples, en Californie, en plus de la légalisation du cannabis, il fera un truc pour obliger tous les producteurs de films porno mettre des préservatifs à leurs acteurs et même faire des tests à leurs acteurs et actrices.
Ce qui, à mon avis, serait une très bonne mesure.
Voilà, et la dernière chose, la Californie a toujours la peine de mort, bien qu'elle ne l'utilise pas depuis quelques années déjà, depuis 78 je crois, non, depuis 2006 la dernière, pardon. Bon, en tout cas, il y a quand même 740 condamnés dans le couloir de la mort, et donc ça serait pour commuer leur peine à prison à vie, je sais pas si c'est mieux, en tout cas c'est mieux que d'attendre comme ça dans le couloir de la mort.
Voilà, en tout cas, et on va finir là-dessus, voilà, sur ce titre de Courrier International 2016, un tournant pour la légalisation de la marijuana. En tout cas, aux États-Unis, c'est un nouveau tournant, parce qu'effectivement, bon, bah, comme tu l'as dit, il y a plein d'États qui vont se prononcer sur la question. Encore pour terminer, chrétien.news.
Moi, je rajouterais deux secondes.
Tu m'as coupé la parole, t'es méchant.
Ça ferait 6 milliards d'euros quand même pour la Californie. Et que si, avec ces 9 États, quoi, c'est les 4 qui ont déjà légalisé, plus les 5 autres, ça ferait 25% de la population américaine qui aurait légalisé.
Bien,
je te laisse enchaîner sur l'autre chose.
Voilà, après. Non, mais juste pour terminer, voilà, que la majorité des Américains, on en a déjà parlé, sont pour la légalisation du cannabis, mais y compris les chrétiens américains, puisque, comme il se dit dans le 1 Corinthiens 6.12, je sais pas dire tout ça dans la Bible, bref, il est écrit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Et ben donc apparemment c'est pas contradictoire avec le fait d'aimer le cannabis et de vouloir en fumer. Donc visiblement les Américains chrétiens sont aussi favorables à la légalisation du cannabis. Et c'est quand même presque surprenant, je dirais. Voilà.
Allez, ciao à tous.
C'est la fin de Cannabis Circus. À la semaine prochaine. Et maintenant c'est Chasseurs de Son. Bonne soirée. Au revoir.
Ciao.